référence. Patients et professionnels de santé, profitez d'un outil conçu pour répondre à vos besoins et faciliter vos rendez-vous. Alors simplifiez-vous la vie et connectez-vous vite sur notre site web ou appli mobile, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Clicodoc, du clic au doc. C-L-I-K-O-D-O-C. Le flash local avec votre centre commercial Place d'Armes.
Centre commercial Place d'Armes, the place to be.
Il est l'heure de vous rendre sur Clicodoc. Clicodoc, l'application qui réinvente l'accès aux soins en Martinique.
Il est 9h en point sur l'actualité avec un flash présenté par Myrta Paller. Bonjour.
Bonjour Jean, bonjour à tous. Angélique Angarny, Philopon de Fort-de-France, élue Miss Martinique 2024. Originaire de la commune du Morne-Vert, elle succède à Cléo Modestine. La chef d'entreprise de 33 ans a été couronnée hier soir au terme d'une cérémonie de gala à Tropicatrium. 12 candidates s'affrontaient pour décrocher l'écharpe. Elles ont défilé lors de 5 tableaux différents sur le thème de voyage en terre africaine. Angélique Angarny, Philopon a séduit les Martiniquais et le jury. Elle représentera donc la Martinique au concours Miss France en décembre prochain au Futuroscope. En Martinique, les nuits mouvementées se succèdent depuis jeudi. Les pompiers interviennent à Fort-de-France et la nuit dernière, ils ont été appelés pour éteindre des flammes. Dès 21h au quartier Montgérald devant le centre commercial Trident, une voiture s'est embrasée. Et un peu après 1h du matin, ils sont de nouveau intervenus pour des feux de détritus et un incendie de voiture au quartier Sainte-Thérèse. Et en rappel, dans la nuit de vendredi à samedi, en marge des émeutes à Sainte-Thérèse, des coups de feu ont été tirés sur l'hôtel de police, heureusement sans faire de blessés. Une personne a été interpellée après les faits et une enquête a été ouverte après l'attaque du commissariat de Fort-de-France. Des pistes d'amélioration du transport maritime ont été proposées aux usagers. Face aux problèmes récurrents du réseau, ils ont exprimé hier au cours d'une rencontre avec les dirigeants de la compagnie Blue Line et Martinique Transport leurs difficultés et leurs doléances. Étaient présents face aux acteurs du transport maritime et de Martinique Transport, des clients, des parents d'élèves, un chef d'établissement, celui du lycée Shelcher. Plusieurs problématiques comme les horaires, le manque de rotation des dessertes ou encore le système de billetterie ont été évoqués. Le directeur général de Blue Lines a manifesté la volonté de la compagnie de satisfaire au mieux les usagers des dessertes. Rentrée studieuse pour l'UDEM hier, une trentaine d'adhérents et alliés de l'Union des démocrates et écologistes de Martinique étaient réunis au Diamant pour participer à la rentrée politique du parti. Au cœur du débat, l'Outre-mer à l'épreuve de la Constitution avec Bernard-François Lubin, docteur et enseignant en droit public. Il avait été invité pour l'occasion à débattre de cette thématique et selon lui, la question d'une réforme constitutionnelle est à se poser. Une marche théâtralisée est organisée ce matin à partir de 10h dans les rues de Fort-de-France, intitulée « Femme en la rue Foyale ». C'est dans le cadre du mois du matrimoine avec Culture Égalité. Une déambulation dans les rues qui vise à faire connaître les femmes de la Caraïbe, telles que Suzanne Roussy, Toto Bissinte ou encore Claude Carbet. Des moments de vie de ces femmes seront joués sur une mise en scène de Rita Ravier et ses comédiennes, en collaboration avec Sarah Corinne Emmanuel et La Ronde Chantée pour l'animation chantée de l'événement. Au départ de Carénage pour des arrêts au pavillon Bougenot, à la rue Joseph-Compère, place Paulette Nardal et place Toto Bissinte. Au terme de la manifestation, chaque personne pourra repartir avec un résumé des temps forts. Et puis en sport du football, le CS Caspilote et le Golden Lion n'ont pas su se départager en championnat de R1. Dans le cadre de la première journée, les formations se sont quittées sur un score nul et vierge. Et puis en cyclisme, Ethan Massé de l'ECL et Michael Stanislas de la JC231 défendent les couleurs de la Martinique au 20 tours de Périnette en Guadeloupe. Épreuve de 146 km avec un circuit de 7 km 300 à couvrir 20 fois. Le départ a été donné ce matin à 8h30 au Gosier RCI, il est 9h04.
Centre commercial Place d'Armes, the place to be. Faites tous vos achats dans un seul et même espace.
Un parking facile d'accès toujours prêt à vous recevoir dans les meilleures conditions.
Plus de 70 boutiques et services vous offrant de belles expériences shopping.
Un hypermarché spacieux et fonctionnel.
Restauration, esthétique, multimédia, une plateforme médicale, un pôle automobile, tout y est.
Notre mission, vous satisfaire.
Centre commercial Place d'Armes, the place to be.
En septembre, les Cléconomies débarquent chez Clécode et vont booster votre pouvoir d'achat. Chez Clécode, venez profiter de prix imbattables sur toutes les restaurations et reproductions de clés. Et pendant tout le mois de septembre, toutes les coques de clés sont à 30 euros seulement. Oui, oui, 30 euros seulement. Alors rendez-vous vite au centre commercial Place d'Armes pour les Cléconomies Clécode, votre spécialiste en reproduction de clés. Offre valable du 1er au 30 septembre.
L'actualité nationale et internationale de la rédaction de RTL, Victor Pourchet, bonjour.
Bonjour à tous. Le Hamas salue le tir d'un missile sur Israël ce matin, tir revendiqué par les rebelles houthis du Yémen. Il n'a fait aucun blessé, s'écrasant dans une zone dégagée selon Tel Aviv. Le mouvement terroriste palestinien assure, je cite, qu'Israël ne sera pas en sécurité tant que son agression à Gaza ne cessera pas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a quant à lui affirmé que les houthis paieront un lourd tribut pour cette attaque. Dans l'actualité également, la politique et François Hollande qui veut l'union à gauche, mais sans candidature unique pour la présidentielle de 2027. Dans le grand jury RTL Public Sénat avec Le Figaro et M6, le désormais député de Corrèze cible notamment le chef de file insoumis Jean-Luc Mélenchon.
Moi, je n'ai jamais été favorable à la candidature unique à gauche. En plus, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire la candidature unique de la gauche? Dès lors que Jean-Luc Mélenchon, selon toute vraisemblance, est candidat. On ne peut pas imaginer que Jean-Luc Mélenchon puisse être un candidat unique de la gauche. Ça n'aurait aucun sens.
Vous n'avez aucun doute. Jean-Luc Mélenchon sera candidat.
Bon, en tout cas, si ce n'est pas lui, il y aura quelqu'un de sa famille politique. Lorsque une candidature de gauche apparaît comme pouvant être au second tour, il y a ce qu'on appelle un vote utile, ce dont Jean-Luc Mélenchon a bénéficié deux fois. Sans être autre chose, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon.
Ce n'est pas la division de la gauche qui l'a
empêché. Non, ce n'est pas parce que le Parti communiste avait présenté un candidat, c'est parce qu'il n'était pas regardé comme pouvant, au second tour, l'emporter et gouverner.
François Hollande dans le grand jury que vous retrouvez évidemment en podcast sur l'application RTL et sur RTL.fr. Et puis du sport avec d'abord de la Formule 1 et Oscar Piastri sur McLaren qui remporte le Grand Prix de Bakou. Le champion du monde en titre, Max Verstappen, termine quant à lui à la 5e place juste derrière son dauphin Lando Norris, mais l'écart se réduit au classement des pilotes. Notez aussi votre programme foot. Il y a 5 matchs à l'affiche en Ligue 1 aujourd'hui. Rennes-Montpellier à 15h, Nantes, Reims, Toulouse, Le Havre, Strasbourg, Angers à 17h. Tout cela avant le choc de cette 4e journée de Ligue 1. Lens-Lyon ce soir, ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h. La météo à présent est beaucoup de soleil aujourd'hui, un petit peu partout en France. Notez tout de même quelques passages nuageux au nord de la Seine et aussi un mistral fort en Provence. Côté température de 17 à 28 degrés, de l'Alsace à la Corse, 19 à Grenoble, Dijon et Lille, 21 à Nantes, Tours et Avignon, 27 pour Perpignan et Toulon. Et puis les courses, le quintet est à Longchamp, départ dans un peu moins d'un quart d'heure désormais. Dominique Cordier vous conseille de jouer le numéro 2, le 9, le 14, le 3, le 6, le 15 et le 16. L'outsider de RTL, c'est justement le numéro 16, Wad Kols.
Avec une montre connectée Calas à 59 euros. Une affaire! Elle organise ta journée, tes activités, ton sport et en plus, tu as des jeux. La montre connectée Calas noire, rose ou bleue, spécial teenager, fait beaucoup de choses. Sauf tes devoirs. Préparons la rentrée avec Eurogold. Boucles d'oreilles, colliers, montres. Madame Bijou a pensé à tout. Eurogold. Eurogold, partenaire de toutes vos émotions.
C'est le Sianka. Le Sianka, c'est route des rochers. Le Sianka, c'est un formidable service traiteur pour vos baptêmes, vos communions, vos mariages. Dépouillez au tir bien sa caille ou criez le Sianka. Numéro I, c'est 64 29 47. Le Sianka, libre service, pâtisserie, traiteur, route des rochers. Et puis si vous venez acheter pain le dimanche bon matin, ou que trouvez boudin chaud, ouais, le Sianka pour toutes vos commandes. 64 29 47. Le Sianka, ouvert les dimanches et jours fériés de 7h30 à 12h30.
C'est la reprise. Alors avec Fitness Park, donne-toi de nouveaux objectifs et dépasse tes limites. Musculation, cardio, cross-training, profite de clubs spacieux et tout équipés pour te dépasser et te surpasser. Et en ce moment chez Fitness Park, tu n'as rien à payer pour te lancer. Les 4 premières semaines et les frais d'adhésion sont offerts.
Fitness Park, se dépasser, se surpasser.
Offre valable du 26 août au 21 septembre 2024 pour toute souscription à un abonnement avec un engagement de 52 semaines. Non cumulable avec toute autre offre promotionnelle. Voir conditions sur fitnesspark.fr.
Avec mon bilan prévention, j'ai rendez-vous avec ma santé. Mon bilan prévention, je le fais à certains âges clés de la vie avec un professionnel de santé. Ça me permet de faire le point sur mes habitudes de vie et de bénéficier de conseils personnalisés pour vivre en bonne santé plus longtemps. Pour faire mon bilan prévention, je prends rendez-vous avec un médecin, un pharmacien, une sage-femme ou une infirmière. Renseignez-vous sur monbilanprévention.santé.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement, de l'assurance maladie et de Santé publique France.
Vous êtes propriétaire d'un studio F2, F3, situé au centre, nord ou sud, et vous souhaitez aider un jeune à réaliser son projet professionnel ? Participez à notre opération Ma Rentrée, Me Loger, tout le mois de septembre. Le CLAJ Martinique a besoin de vous pour loger nos jeunes. Contactez-nous dès maintenant pour faire connaître vos logements disponibles, trouver vos futurs locataires et profiter de nos services pour sécuriser votre location. Envoyez vos propositions par SMS au 0696 35 45 00 et rendez-vous au siège du CLAJ tous les vendredis de 9h à midi pour rencontrer votre futur locataire.
Leclerc.
Le magasin qui défend votre pouvoir d'achat a encore frappé. Jusqu'au 22 septembre, retrouvez le seau de 2 kg de cocktail salaison Marion au prix mini de 15,99€, soit 8€ le kilo. Alors pas mal, non? Du 11 au 22 septembre, vos offres exceptionnelles se trouvent dans vos Leclerc Galeria, Place d'Armes et Rond-Point.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Yeah. Attention, top! Quelle est la différence entre un propriétaire de voiture française, allemande ou asiatique? Y en a pas. Ils prennent tous les trois leurs pièces détachées chez AutoQuick.
Pour toutes vos pièces détachées, pensez AutoQuick. En ce moment, le pack de freinage disque plus plaquette de frein avant référence DDF 1140 et FDB 4066 pour véhicules français est à 49,99€ seulement. AutoQuick. L'expert sans concession.
Sac de Rivière Roche.
h 11h, la tribune du dimanche sur RCI.
Bonjour et bienvenue dans l'édition numéro 2 de la tribune du dimanche. Nous sommes le 15 septembre en direct sur RCI. Qui sont ces femmes et ces hommes élus politiques ou décideurs institutionnels qui ont choisi d'exercer des responsabilités? Quels sont leurs engagements, leur quotidien, leurs projets et leur vision de la Martinique? Nous allons explorer leur parcours de vie aussi, les dessous de leur début sur la scène publique, la scène politique. Mais c'est aussi votre émission et vous aurez, vous aussi, le loisir d'intervenir en direct dans à peu près 25 minutes à l'antenne pour poser vos questions au 63 12 12. En revanche, je le rappelle, une règle stricte à laquelle je veillerai personnellement, le respect, l'écoute, aucune prise à partie ou injure tolérée, vous êtes prévenu. Pour ce dimanche, mon invité est une invitée puisque j'accueille Madame Catherine Conconne, sénatrice de Martinique et ancienne candidate aux élections régionales ou territoriales de 2021. Bonjour Catherine Conconne.
Bonjour Philippe Dizère et bonjour à tous nos compatriotes qui nous font le plaisir de nous écouter.
Ce qu'il faut dire, c'est que dans cette émission, nos invités devront répondre aussi à deux questionnaires, vous êtes prévenus. Un questionnaire que j'appelle sauce piquante, il s'agit donc de piquer un peu l'invité, et un questionnaire j'aime pas, beaucoup plus léger, en fin d'émission. Pour démarrer, nous allons sacrifier au rituel qui est pour cette deuxième édition, vous êtes la seconde invitée. Imaginons, vous arrivez dans un lieu où personne ne vous connaît et vous devez vous présenter. Vous dites quoi, Catherine Conconne ?
Catherine Conconne, martiniquaise, militante, engagée, amoureuse de son pays.
Vous dites martiniquaise, pourquoi ?
Parce que je suis avant tout une martiniquaise.
Ça veut dire quoi être martiniquaise?
Eh bien, c'est habiter ce pays, déjà. L'habiter dans tout, au sens très noble du terme. Hein. Je ne parle pas d'habiter, être dans une maison. L'habiter, adhérer à sa culture, être empreint de sa culture, avoir des codes de vie qui nous sont propres, des signaux culturels et patrimoniaux qui nous sont propres, et avoir eu cette histoire de 4 siècles qui viennent se dérouler, qui ne ressemble à aucune autre et qui a forgé la personnalité de Martiniquais que nous sommes.
Vous êtes une Foyalaise Bontain, Catherine Conconne?
Absolument, née à Fort-de-France, vivant à Fort-de-France, avec des parents Foyalais, même si, comme dans toute la Martinique, ils ont tous des origines. Mon père, du côté du Monde-Rouge, par sa famille maternelle, ma mère, du côté du Robert, par sa famille... Mais étant arrivé très tôt à Fort-de-France, né à Fort-de-France, comme mon père, mon grand-père aussi, et ma mère descendue à Fort-de-France à l'âge de 2 ans. Donc, des vrais Foyalais.
On sait que Fort-de-France, c'est souvent une histoire de quartier. Le vôtre, c'est lequel ?
Tivoli, les hauteurs de Fort-de-France, le plus beau quartier de Fort-de-France. Je dis ça souvent pour embêter mes copains foyalais que j'aime beaucoup, de tous les quartiers que j'ai eu l'occasion de fréquenter, dans lesquels j'ai beaucoup travaillé. Un très beau quartier, la campagne de Fort-de-France. C'était la réserve agricole de Fort-de-France avec beaucoup de paysans. Mon grand-père était un agriculteur d'ailleurs, entre autres. Il avait aussi son bus, son taxi pays de l'époque qui faisait la liaison entre Tivoli et Fort-de-France. Mais un très beau quartier, parce qu'en fait, c'est un quartier des personnes qui sont arrivées après la catastrophe de 1902 avec des
terres
qui ont été distribués à des familles. Et puis, lorsque vous dites certains noms, vous savez que c'est Tivoli, parce que ce sont des grands terrains qui avaient été donc donnés à ces sinistrés, et en particulier de la deuxième éruption qui avait touché le Mont Rouge, et qui sont arrivés dans ce quartier, et qui est resté très préservé d'ailleurs, très préservé, avec des codes familiaux, une excellente entente entre voisins, et puis une vie à la fois urbaine et rurale, très, très équilibrée.
Alors, vous êtes donc de ce quartier de Tivoli. Vous faites partie de ces élus sur lesquels on dit beaucoup de choses, mais je me suis laissé dire que finalement, on vous connaissait peu. Vous grandissez donc à Tivoli. C'est qui la petite Catherine Conconne? Vous faites vos classes où? Quel est votre parcours finalement, à la fois scolaire, mais également vos débuts en politique?
Bien, nous sommes trois enfants. Je suis l'aînée, donc je suis née en 1963, donc j'ai déjà un âge sérieux. Et avec mon frère et ma sœur, nous avons été élevés entre ma famille, mon papa et ma maman, et la marraine de ma sœur, qui était une femme très engagée dans la vie citoyenne. Elle était directrice de la crèche. Vous savez que Fort-de-France a eu des crèches très tôt, hein, comme quoi toujours Césaire donnait du sens à ce qu'il prônait comme philosophie et comme mode de vie. Dès 1950, Fort-de-France a eu des crèches. Donc, elle a été directrice de la crèche de Tivoli. Tout le monde la connaissait à Tivoli. C'était Manzé Yvonne ou bien Goudy. Et une femme qui nous faisait travailler à l'école, qui était extrêmement rigoureuse. Donc, notre vie était partagée entre le 25 post-colon et puis le 10 de l'autre côté de Tivoli, du côté de l'école, de chez mes parents. Famille extrêmement bienveillante. On avait des parents qui étaient sévères hein, pour l'époque. À l'époque, les parents étaient rigoureux. Mais pas pour autant pour nous taper dessus, on leur parlait créole, ils sont devenus au fil du temps nos amis, nos copains. Mon papa, c'était vraiment notre grand copain, il allait partout avec nous malgré son âge. Des gens qui nous ont appris à aimer l'autre, à partager avec l'autre, à ne sombrer dans aucun racisme, dans aucune xénophobie. On fréquentait tout le monde, Béché, Nekouli, Chabenoué, il n'y avait pas ça chez nous. Il y avait juste des copains, des humains, des gens avec qui on partageait.
Jeune, vous imaginiez vous lancer en politique? C'est quelque chose qui vous titillait déjà ou c'est venu un peu plus tard?
Bien, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le célèbre dessin animé, on est tous tombés dedans. Lorsque vous avez un grand-père qui, en 1945, fait partie de l'équipe municipale d'Aimé Césaire.
Votre grand-père, donc?
Oui, mon grand-père, Camille Conconne, si vous regardez la liste du conseil municipal de 1945, qui était un petit conseil, hein, Fort-de-France n'était pas aussi peuplé qu'aujourd'hui, il fait partie de cette équipe et il fait trois mandatures avec Aimé Césaire. Ensuite, ma mère, dans les années 80, devient aussi conseillère municipale. Mais chez nous, c'était pas en mode gourou, c'est-à-dire c'était pas on suit Césaire, on suit la politique parce qu'il faut le suivre et puis le doigt sous la couture du pantalon. Non, une prise de conscience, avant tout. Qui êtes-vous? Que vous est-il permis d'espérer? C'était ça, cette prise de conscience qu'on était des Martiniquais. Jamais eu de problème d'identité. Je savais qui j'étais, quelles étaient mes origines. Petit, on a participé au premier festival culturel de Fort-de-France avec les ballets qui venaient d'Afrique. Cette reconnaissance de notre qui n'était pas connue avant, qui était mal connue avant, voire pas acceptée du tout de notre appartenance à ce melting pot, à ces migrations différentes, de cette histoire de l'esclavage qui nous a amené jusqu'aux rives de la Martinique, qui a façonné
alors,
ce peuple martiniquais.
Je me permets
donc
de vous
interrompre. Une vraie conscience.
C'est ça. Ça, c'est votre analyse a posteriori. Mais quand on revient sur ce parcours, vous êtes jeune, on devine que peut-être la politique vous titille parce qu'il y a cette dimension familiale, mais à quel moment vous vous dites « je vais me lancer » et « je vais me lancer au Parti progressiste martiniquais » parce que quand je vous écoute, vous auriez pu aller ailleurs. Je veux dire, il y avait déjà à Fort-de-France des oppositions municipales.
Non, mais ce n'était pas possible. La prise de conscience dans laquelle j'ai
vécu... Vous dites que ça ne l'était pas, mais je vais vous rappeler un épisode que vous connaissez sans doute. Le père de Jean-Philippe Nilor a milité au Parti progressiste martiniquais et lui a fait le choix du mouvement indépendantiste martiniquais.
Peut-être pas assez longtemps. Vous savez, quand, depuis petit, vous êtes bercé à cette prise de conscience. Chez moi, il était hors de question de parler quand il y avait le journal à la radio. On nous achetait des journaux, on nous achetait des livres, on dévorait des livres. Donc il y avait une prise de conscience, Césaire fréquentait chez moi. Il venait chez mon grand-père, il nous connaissait, ma sœur et moi, toute petite, et il nous parlait énormément. Lorsqu'il y avait les grands meetings dans Fort-de-France, nous étions assis au pied du podium. On participait au grand vidé de victoire. Et quand vous êtes assis comme ça, écoutez ces personnes illustres que nous avons eues, ces livres que vous découvrez, ces lectures que vous avez, ça vous manque. Ça vous manque. Donc, en plus, l'opposition de l'époque des années 60-70 à Fort-de-France, c'était une opposition très tranchée. Ce n'était pas encore les indépendantistes. C'était une opposition Césaire contre une droite extrêmement dure, avec des pratiques qui étaient particulières. Je vais pas les juger aujourd'hui parce que c'est du passé, allons. Mais qui étaient particulières. Un conseil général totalement à droite, un gouvernement qui ne suivait pas Aimé Césaire. Il y avait une exclusion de cette partie, de la Martinique qui était manifeste. Donc, quand vous êtes consciente de ça, lorsque vous savez ce que c'est que la justice sociale, cet apport de Césaire à l'émancipation des populations, alors à faire qu'ils soient éduqués. Il me disait, tu sais, on n'avait pas d'argent, mais j'envoyais Géril chez le béquet au bord de mer, parce qu'avant les grandes maisons de commerce étaient au bord de mer, et je lui disais, débrouille-toi, il me faut du bois pour construire une école. Et j'avais du crédit parce que il n'y avait pas d'argent. Et parfois, ça faisait longtemps que je n'avais pas payé la dernière facture. Mais il fallait que le peuple soit éduqué, qu'il apprenne à lire. Parce que l'émancipation, c'est la mère des batailles de l'émancipation, c'est l'éducation. C'est important. Alors, donc, être né dans ça...
Oui, alors, évidemment, vous militez donc au Parti progressiste martiniquais. On ne va pas refaire toute l'histoire. Un jour, vous décidez d'en partir. Vous êtes sénatrice. Vous êtes réélue sénatrice en 2023. Et là... Vous vous présentez également en 2021 aux élections à la CTM. Mais avant d'y venir, je voudrais qu'on aborde trois aspects de votre mandat de sénatrice. Et vous allez m'arrêter si je me trompe. Il me semble que vous avez trois grands volets. Alors, ils ne sont pas uniques, mais il y a trois choses qui vous préoccupent. C'est la question de la continuité territoriale, la question du retour au pays, mais c'est aussi la sécurité et la lutte contre le narcotrafic. Alors, je le redis, il ne s'agit pas pour moi de dire que ce ne sont que ces trois thèmes-là,
absolument.
Mais cela vous intéresse. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette histoire de continuité territoriale, parce que c'est aussi en écho avec l'actualité immédiate. Expliquez à celles et ceux qui nous écoutent ce matin ce qu'on appelle la continuité territoriale et pourquoi c'est quelque chose qui vous préoccupe.
Alors c'est quelque chose qui est inscrit dans une loi. Il faut savoir que la continuité territoriale, c'est pas qu'un concept, c'est un principe législatif. Vous allez dans le Code des transports, il y a un article qui concerne la continuité territoriale qui a été issue d'une loi. Que dit la République ? La République dit l'Hexagone n'est pas le seul territoire sur lequel la République existe. Il y a aussi des territoires éloignés, on ne porte pas de jugement, mais il y a des territoires éloignés dits outre-mer. Et ces personnes ont le droit d'être transportées, de se déplacer de manière équitable sur l'ensemble de l'Hexagone. Du territoire français, pardon. Donc, établir des relations qui existent et qui permettent à l'État de venir compenser les surcoûts. Je rappelle que depuis près de 50 ans, ce principe est activé en Corse, aussi bien sur les passagers que sur les marchandises. Plus de 100 millions d'euros sont donnés à la collectivité de Corse afin de payer la moitié du fret qui permet d'acheminer des marchandises entre l'Hexagone, enfin, comme ils disent, le continent, et l'île de Corse, qui est tout près, comparé à la Martinique. Donc, il y a des principes. Moi, je crois à l'équité dans la République. L'égalité, c'est un principe qui est apposé. Je parle d'équité. Nous devons, si nous sommes français, être traités de manière équitable sur la base d'arguments, d'études, de motifs qui sont exposés, etc., et sur lesquels nous travaillons. j'ai tenu à aller dépoussiérer ce dossier-là. Parce que vous savez, moi, il y a une chose que je fais très peu, c'est battre le macadam en manifestant, en constatant et en dénonçant. Un truc ne va pas, je m'arrête, je me dis, comment ça marche ? Ou pourquoi ça ne marche pas ?
Pourquoi le macadam ? Parce que ce n'est pas efficace, selon vous ?
Oui, il faut le faire, mais pas que ça. Et puis, il faut le faire à partir d'arguments fiables, à partir d'une véritable analyse. Et oui, il y a aucun problème. L'élu doit aller plus loin.
On pourrait vous rétorquer que c'est bon, l'analyse, on a compris. On a une vision, on a une conception, et c'est ça qu'il faut combattre.
Bien sûr, mais il faut, j'ai envie de dire, être en face d'un gouvernement qui a les clés, qui a les finances, les ramener à la table sur la base d'arguments fiables, de crédit dans le discours, et pas simplement des émotions explosées, énervement, ceci, cela. Il y a un moment, il faut taper du poing sur la table, mais après dire, nous avons travaillé, voilà ce que nous avons publié. Et nous avons droit à l'équité. J'ai remis un rapport de 13 préconisations, même 14, parce qu'il y en a une autre qui en a des d'hommes. Il y en a 9 aujourd'hui qui ont été mises en œuvre. 9. D'ailleurs, on parle de 0 à 9 préconisations mises en œuvre. Mais le travail paye. Je dis tout simplement que le travail paye. Et pour moi, c'est ça le rôle de l'élu. L'élu doit dénoncer, l'élu doit faire les constats, l'élu doit dire je regrette, je ne suis pas d'accord, etc. Mais doit aussi s'inquiéter de l'étape suivante. Ne pas rester, demeurer figé dans un constat futile ou regrettable.
Catherine Conconne, vous acceptez de déplaire ?
Oui, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux.
Vous mesurez le risque politique pourtant ?
Mais vous savez, je ne suis pas femme de calcul politique. Je peux arrêter ma vie politique demain. Vous voyez, le PPM, ce parti que j'aime beaucoup, qui est un parti patrimoine et qui est pour moi le parti idéal qui a développé la plus belle philosophie politique, la plus adaptée à la Martinique. Alors, beaucoup de gens ne l'ont pas étudié, et puis on retiendra du PPM, ceci, la guerre, cela, machin, la guerre entre un tel et un tel. Non, il n'y a pas que ça. Allez au fond. Allez lire la philosophie politique qui a été suggérée par Aimé Césaire. Elle est magnifique, elle est flamboyante et elle est pertinente. Vous voyez que, du jour au lendemain, j'ai quitté le PPM parce qu'il y a des choses qui me déplaisaient. Pour vous dire que je n'ai pas de parcours inscrit en politique. Je déplais, c'est pas grave. Je plais aussi, c'est tant mieux. J'accepte de déplaire quand je suis dans la sincérité. Je ne fais pas comme certains qui disent le contraire de ce qu'ils pensent simplement pour plaire aux gens. J'en connais, ils viennent me dire, mais le qu'on ne comprend pas, moi, tu es obligé de dire ça, mais où ça m'a d'accord et puis où. Non, je ne sais pas faire ça. Je dis ce que je pense, de la manière que je le pense. Et si demain, ça devait être à un tel niveau de me déplaire, vous savez, j'ai tellement de choses à faire. Et je vous le répète, je peux quitter la politique demain. Je ne vais pas m'ennuyer une demi-seconde.
Merci. 9h27, nous sommes sur RCI. C'est la tribune du dimanche avec Catherine Conconne. Dans une dizaine de minutes, les premiers appels. Je voudrais qu'on aborde le second volet, qui est la question du retour au pays. Alors, vous en avez fait un cheval de bataille. Mmh. Vous êtes là aussi très critiqué. On dit, mais non, ça fonctionne pas.
C'est faux.
Elle est, en réalité, elle se sert de ça pour être en relation avec de grandes entreprises locales, les quais, etc. Pourquoi c'est si important que ça, le retour au pays, et pourquoi faut-il l'organiser ? On serait tenté de vous dire, mais les jeunes Martiniquais, ils font ce qu'ils veulent, ils vont où ils veulent, où ils reviennent, où ils ne reviennent pas.
Vous avez un pays qui avait 400 000 âmes et qui aujourd'hui est sous la barre des 345 000 habitants. On continue comme ça ? On ne fait que, là aussi, battre le macadam en disant « Pays à nous capes de moune » et puis ça s'arrête là ? Il faut agir. Et à chaque fois qu'on agit, il y a des résultats. Chaque fois qu'on agit, il y a des résultats. Aujourd'hui, c'est 2000 personnes qui ont été accompagnées au retour en Martinique via Aliviri. Alors, quant à cette histoire d'être mis en rapport avec des entreprises martiniquaises, mais j'ai envie de dire, c'est tant mieux si les entreprises concourent si peu. J'aimerais qu'elles le fassent encore plus. Parce qu'il y va de leur survie. Moins de consommateurs, moins d'habitants, et bien, ces chiffres d'affaires en baisse, c'est disparition de l'économie martiniquaise. Je rappelle quand même que le premier financeur de cette association, c'est l'État. Aussi paradoxal que ça pourrait paraître. L'État. Et puis, la CAF. Des organismes étatiques, j'ai envie de dire. Les entreprises, elles ont à peu près 20 000 euros sur l'année. On a un salaire à payer, on a un loyer, tout. Donc, Je les remercie d'ailleurs de nous aider. Et parfois, il y a les petites entreprises martiniquaises qui nous aident en me disant, moi, pas faux, moi, je vais 1000 euros. Parce que moi, je savais que j'ai fait un travail. Oui, ça marche, le retour au pays. Parce qu'avant tout, c'était un concept qui était dans notre tête, nous, Martiniquais, l'a priori qui consistait à dire on ne peut pas revenir en Martinique parce qu'il n'y a pas d'opportunité. On a cassé cet a priori-là. On a cassé cet a priori. Et aujourd'hui, lorsque vous avez une petite association comme ça, avec une seule salariée, des petits moyens, qui chaque jour reçoit une centaine de demandes de contact, je répète, une centaine de demandes de contact, et quand, eh ben j'ai envie de dire, ça marche.
Et quand ce
alors,
sont
on ne pas tout pour
et
tout le monde.
Quand ce sont des bénéficiaires qui critiquent cette organisation, vous leur répondez quoi?
Il n'y a pas de bénéficiaires réellement qui critiquent cette association, en dehors des manipulations de certains blogueurs qui travaillent à la CTM, d'ailleurs, et qui se sont acharnés simplement pour plaire au chef, à détruire le travail qui était fait par les virés, mais nous sommes là, on continue.
En gros, vous êtes l'ami d'un parti qui n'est pas forcément le vôtre?
Bon, c'est pas grave, les gens...
J'achète pas
l'amitié. On est amis avec moi, on n'est pas amis avec moi. J'ai envie de dire, dès que ma famille m'aime, c'est l'essentiel. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont mes amis. Vous savez, on vous dit plus difficilement qu'on vous aime qu'on ne vous aime pas. Alors, ceux qui vous aiment pas, ça fait beaucoup de bruit, ça hurle sur les réseaux sociaux, mais j'ai envie de dire, ne m'aimez pas pour de vraies raisons. Argumentez votre critique. Et pas simplement pour me traiter de tous les noms. Quand on est dans ce registre-là, la force c'est moi, et la faiblesse c'est vous.
Dernier volet avant la première salve de questions au téléphone, je voudrais qu'on aborde quelque chose qui vous tient à cœur aussi, c'est la question de la sécurité et de la lutte contre le narcotrafic. Dites-nous la vérité, Catherine Conconne, l'État ne s'est pas donné les moyens de stopper cette catastrophe qui s'abat sur nous, avec de la drogue, des armes, des personnes qui se livrent à des trafics à un très haut niveau, avec les homicides que nous connaissons. La situation est grave ou c'est une vue de l'esprit qu'on peut encore gérer?
La situation est grave. Ça passe par une prise de conscience. Dire à tous ces jeunes qui tombent dans ces trafics qu'il n'y a pas d'argent facile. Ça n'existe pas. Et que tôt ou tard, c'est la prison ou le cimetière. Il n'y a pas de troisième voie. Donc là aussi, c'est une prise de conscience qui doit être faite dans les familles. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le sérieux qui paye. Il n'y a que la rigueur de vie qui paye. Et que il n'y aura pas que l'État qui pourra régler tous nos problèmes de narcotrafic. Oui, parce qu'on ne pourra pas mettre un policier ou un douanier derrière chaque Martiniquais. Il faut que chaque Martiniquais s'implique aussi. Et lorsque vous repérez quelque chose qui n'est pas normal, qui vous semble louche, un trait de vie anormal, des gens qui ont des pratiques bizarres sous vos fenêtres, il faut le dire aussi. Il faut aider les forces de l'ordre, il faut les soutenir. Et à ce titre, en parlant des forces de l'ordre, je leur adresse tout mon soutien dans ce qu'ils subissent depuis quelques jours, y compris le fait qu'on ait canardé le commissariat de police. Sans police, il n'y a pas d'État. Sans police, il n'y a pas de nation. Sans loi, c'est l'anarchie. Donc nous devons cohabiter avec ces principes de vie et respecter ceux qui, tous les jours, donnent de leur vie, de leur temps, et pas simplement pour un salaire, ils y mettent de la passion, de la détermination pour nous protéger. Nous protéger.
Dans deux minutes, la première salve de questions, vous allez nous interroger, bien évidemment, Catherine Conconne est présente, sur son engagement, sur la conduite de son mandat de sénatrice et évidemment les trois thèmes que nous avons abordés autour de la continuité territoriale, du retour au pays, de la sécurité. Dernière question avant les questions des auditeurs, faut-il être plus sévère?
Oui, moi je suis adepte de l'ordre. J'ai été 13 ans élue à la sécurité à Fort-de-France. Et c'est parce qu'on a mis de l'ordre que la délinquance avait baissé. C'est parce qu'on a été extrêmement sévère, qu'on interdisait certaines choses dans Fort-de-France, où j'étais présent tous les soirs, dans les quartiers difficiles, Terre Saint-Ville, partout. Je disais non, ça c'est pas possible, ce bar là peut pas ouvrir comme ça. Mais quand on met de l'ordre, on se rend compte que les choses vont dans le bon sens. Il faut de l'ordre, il faut de la sévérité. Aucune institution ne fonctionne s'il n'y a pas des garde-fous. Et les garde-fous, il faut se donner les moyens de le faire. Oui, il faut de l'ordre. Oui, être de gauche, c'est pas faire des complexes quand on parle d'ordre et quand on parle de sécurité. Oui.
Vous trouvez que c'est une question qui est un peu évacuée en Martinique, la question de la punition, la question de la répression. Vous trouvez qu'il y a toujours un discours qui n'évoque pas. Mièvre, c'est-à-dire
mièvre, mou, c'est-à-dire qu'on ne dit pas les choses. On ne dit pas les choses, tout le monde le dit. La Martinique, c'est le royaume du en bas-feuille. On dit tout en bas-feuille. Et puis rien en l'effeuille. On dit rien. C'est-à-dire que les gens viennent venir, ah, y'a qu'à machin, y'a qu'à exagérer, faut que fait ci, faut que fait ça. Une fois que vous le faites.
Merci Catherine Conconne. Premier appel, Marie-Aline qui souhaite vous parler de vos engagements auprès des jeunes. Marie-Aline, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Madame Catherine Conconne. J'aimerais vous poser une question. Je sais tout votre engagement pour le retour des jeunes, des cerveaux en Martinique. Je suis martiniquaise moi-même, après un long passage en France hexagonale. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que la Martinique a proposé aux jeunes qui veulent revenir. Avec un taux de chômage aussi important, un taux de délinquance aussi important, une Martinique a des problèmes d'eau. Qu'il n'y a pas de transport développé, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Qu'est-ce que la Martinique a réellement à proposer aux gens pour qu'ils se réalisent?
Merci beaucoup, Marie-Aline. Écoutez-nous, oui, la réponse, restez sur RCI, vous aurez la réponse de Catherine Conconne tout de suite. Merci.
Eh bien, déjà l'aimer, parce que quand j'entends votre discours, Marie-Aline, je suis un peu triste. C'est un discours totalement désespéré, qui donne l'impression qu'il n'y a rien de bon en Martinique.
Il n'est pas réaliste, son discours?
Non, il y a plein de bonnes choses en Martinique, et ce n'est pas parce que le transport est difficile.
Ça invalide ce qu'elle dit?
Non, et lorsque nous interrogeons les jeunes qui reviennent, parce que je vous confirme qu'avant de se lancer dans cette aventure du retour au pays, j'ai voulu palper la réalité. On a mené une enquête qui a recueilli plus de 6000 réponses et on les a analysées. Et contrairement à ce qu'on pense, plus de 85% des Martiniquais qui sont présents ailleurs en Martinique veulent rentrer chez eux. Et une fois qu'ils rentrent, parce que je les rencontre très souvent à Paris, dans l'avion, partout, ils me disent le bonheur qu'ils ont de rentrer. Oui, il y a du chômage en Martinique, mais il y a aussi des centaines et des centaines de postes qui ne prennent pas preneur. Faut savoir que le gros de la troupe en matière de chômage, ce sont des gens qui sont pour la plupart avec peu de qualifications. Mais dans beaucoup de domaines, il suffit d'aller dans les job dating, il suffit d'aller dans toutes les opérations qui sont menées bientôt, Pôle emploi lance la Martinique Pôle emploi, et bien il y a des super belles offres qui existent pour peu qu'on soit formé, qu'on ait suivi une qualification qui soit pertinente avec le réseau martiniquais. On ne pourra pas faire partir de fusées en Martinique. Donc, si on est spécialisé dans le lancement de fusées, on ne va pas trouver de boulot. Mais il y a énormément de postes à pourvoir en Martinique. Et même s'il y a du chômage, aussi bien dans les collectivités publiques. Récemment, nous avons fait une opération à Madjana. Les responsables du centre de gestion nous ont dit qu'en ce moment, il y a 230 postes à fournir. Mais il faut pour cela... Il faut pour cela un minimum de qualifications, il faut pouvoir être formé en finance dans un certain nombre de secteurs. Non. Et puis arrêtons de dire que la Martinique c'est l'enfer. Paris est très bien desservie en transport, quelques grandes métropoles sont très desservies, bien desservies en transport, mais allez dans la campagne, allez dans ce qui nous ressemble le plus, qu'on n'est pas Paris. Ce qui nous ressemble le plus, si on a baissé l'âge du permis à 17 ans, c'est parce que les gens ont du mal à se déplacer en France aussi.
Merci Catherine Conconne. Mathilde voudrait vous interroger sur la question des biens immobiliers en Martinique. Mathilde, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Madame Conconne. Je vous interpelle sur un phénomène qui est grandissant à la Martinique. Il s'agit des biens qui sont détournés par des voyous qui sont des fois des anciens fonctionnaires et qui mettent la main sur les biens des gens, surtout lorsque la personne est en position de faiblesse.
Merci.
Je parle des grandes personnes.
Merci. Merci. Restez à l'écoute pour la réponse.
Mais il faut être vigilant, Mathilde. Il faut dénoncer. Il faut aller dans la mairie, dénoncer ce qui se passe. Il faut aller auprès des autorités. On a quand même un encadrement législatif et sécuritaire ici qui fait qu'on peut aller porter plainte, qu'on peut prendre un avocat, qu'on peut déposer une plainte, aller voir le maire, faire un certain nombre de choses qui permettent de contenir cela. Mais faut pas laisser faire. Faut pas laisser aller. Faut pas se laisser faire.
En tant que sénatrice, vous pensez que vous avez une action à mener sur ce sujet singulièrement ?
Les lois existent déjà. Il y a quand même pas mal de lois qui régissent le problème de la propriété. Il va nous manquer la couche de la responsabilité individuelle et collective. Un parent a des biens, il a un patrimoine. Il faut qu'on ait le courage d'accepter de le céder avant de mourir. De, comme on dit en créole, préparer papier. Préparer papier avant mort pour pas quitter la peine baïchou. Surtout qu'en Martinique, souvent les papas ont eu des vies diverses et variées avec des enfants, des rois, des dents, etc. Et puis la famille se retrouve à gérer ce désordre une fois que là aujourd'hui, il y a des mesures qui sont mises en place, il y a des notaires et qui sont là à attendre que des successions puissent se préparer avant le décès du propriétaire. Et puis une fois que le propriétaire est décédé, mais il y a aussi des moyens de régler les indivisions. Le gros problème de l'indivision à la Martinique, c'est le coût de la transmission. C'est excessivement cher. Excessivement cher.
Est-ce que ça n'est pas là que vous devez agir?
Oui, il y a quelque chose à faire. Et alors bien sûr, lorsque vous... j'ai quelque chose en préparation sur ça. Lorsque vous devez agir sur quelque chose qui constitue le budget de l'État, vous tombez sous le coup de l'article 40. Autrement dit, vous devez trouver les moyens d'assurer le financement de cette mesure. Si cette mesure qui va dans le budget de l'État prend 100 dans le budget de l'État, ben il faut trouver les 100. Il faut trouver les 100 par une taxe, par un moyen. Mais l'essentiel du problème quant aux indivisions à la Martinique et aux problèmes de transmission de patrimoine et d'héritage, c'est un problème d'argent. On a un pays qui a quand même un pouvoir d'achat qui est quand même assez faible pour une grande partie de la population. Et lorsqu'une famille de 2, 3, 4 enfants doit payer 60 000, 70 000 euros pour hériter de la petite maison, du petit terrain de papa et tout, c'est là que les problèmes commencent. Et puis, on a ce caractère aussi passionné qui fait qu'on ne s'entend pas toujours avec la fratrie et tout, et qui vient rajouter un ingrédient émotionnel, j'ai envie de dire, et qui paralyse le dispositif.
Merci Catherine Conconne. Parmi les thèmes, il y a la continuité territoriale, et évidemment, il y a Chantal qui veut votre avis sur le mouvement actuel de la vie chère. Chantal, bonjour. Vous appelez
oui,
de quelle
bonjour
commune?
Bonjour à vous. De Lamantin.
Merci, on vous écoute.
Bonjour à vous deux. Petite question à Madame Conconne. Que pense-t-elle du mouvement social actuel du positionnement des béquets?
Merci beaucoup. Écoutez la réponse.
Je ne connais pas de positionnement de béquets. Si on veut parler de la grande distribution, ni nègre, ni coulis, ni milat, ni béquets dans la grande distribution. Pour être souvent en réunion avec eux, je vois de tout. Monsieur Panfil, qui exploite des supermarchés en Martinique, qui est donc distributeur, c'est pas un béquet. Donc arrêtons de circonscrire le problème de la grande distribution au béquet. Il y a aussi de la petite distribution. La marchande qui vend, le petit fruitier ici ou là, est aussi un distributeur. Donc une fois qu'on va sortir de ça, allons rentrer dans le fond du problème.
Vous ne craignez pas qu'on vous dise, allez, avec ce discours-là, elle essaie de noyer le poisson ?
Non, pas du tout. Je ne noie pas le poisson et je parle toujours en sincérité. Je me dis qu'il y a des pistes d'amélioration pour baisser les prix. Mais attention. Attention que le chandelier n'ait pas coûté plus cher qu'il l'enterrement.
Expliquez-nous ça.
L'octroi de mer. Oh là 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 là. On massacre l'octroi de mer. Tirez ça. Supprimez ça. Ça nous fait les poches, etc. Mais je suis obligée d'expliquer aux gens aujourd'hui à quoi sert l'octroi de mer. Et quand j'explique, les gens me disent, on ne savait pas. L'octroi de mer est une taxe qui vient alimenter une grande partie du budget de fonctionnement de nos 34 communes, de la collectivité territoriale. Voilà 34 communes, une collectivité à qui on demande énormément de services publics.
Oui, mais on va vous rétorquer que l'État n'a qu'à compenser.
Mais on est d'accord. Mais je milite pour que l'État compense et complète les DGF, les dotations globales de fonctionnement des communes en ce sens. Mais attention, cette taxe sert aussi à limiter la casse sur la production locale. Attention! Vous enlevez l'octroi de mer, vous débridez la concurrence, eh bien, vous avez un problème. Les viandes vont se retrouver même prix que Champflore, le yaourt qui vient de France va être moins cher que Yoplait parce qu'il produit dans des conditions tellement hautes pour un tel autre marché qu'on arrive à des prix qui vont être inférieurs aux nôtres, et puis il n'y a plus de production locale. Qui peut accepter qu'aujourd'hui, les milliers de personnes qui travaillent dans nos industries disparaissent, soient rayées d'un trait de plume pour 2 centimes, pour 10 centimes, pour 15 centimes d'octroi de mer. Donc, il y a un système fiscal et économique qui est en place. Il faut rentrer dedans. Ce n'est pas un système qui est propre au béquet, au coulis, au nègre, à l'État, à la collectivité, etc. On est tous consommateurs. Il y a quelque chose à mettre à plat. Il y a une superposition de taxes et de taxes sur les taxes qui arrive au moment où on dédouane de la marchandise. Il faut s'asseoir, regarder ça de près, poser les vraies questions. Et je sens qu'il faut faire ce boulot-là encore plus au fond ces jours-ci. Je découvre énormément de choses.
Merci Catherine Conconne. Autre question, Michael Dufrançois, concernant la vie chère également. Oui, bonjour.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Madame Conconne. Alors, moi, ma question est la suivante. Je suis quand même préoccupé depuis quelques années. On a eu sur le sujet du chlordécone une émergence de certains mouvements sur le chlordécone, sur les statuts à Fort-de-France, puisque nous sommes dans une ère où on est un peu plus identitaire et donc certaines personnes estimaient que des statuts ne nous représentaient plus pas. Et aujourd'hui, il y a ce mouvement pour la vie chère. Alors que l'on soit pour ou contre, que l'on trouve les méthodes parfois peu académiques, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de problèmes qui sont bien réels. Et ma tristesse, ma déception, c'est de voir que ces sujets ne soient pas saisis par ceux qui ont été mandatés par le peuple, donc qui ont reçu des mandats, qui ont été élus. C'est quoi le problème? Est-ce que les élus n'arrivent pas à s'entendre entre eux, même s'il y a des divergences d'opinion ou quoi que ce soit, dès qu'il s'agit de l'intérêt de la Martinique? Quand on voit qu'avec une association, le RPRAC, réussit quand même à réunir tous les acteurs économiques, l'État, les politiques autour d'une table pour parler de la vie chère et regarder comment on peut faire baisser les prix, est-ce que c'est pas un danger pour la politique, pour les politiciens? Voilà.
Merci. La question, c'est une absence de mobilisation collective des élus. C'est le constat que vous faites aussi, Catherine Conconne, ou pas?
Pas du tout. Il ne faut pas croire que les deux réunions qui ont eu lieu la semaine dernière, c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais pas du tout.
Mais quels élus?
Depuis 2009, il y a des réunions régulières.
Quels élus? La question de l'auditeur, c'est quels élus?
Mais surtout, on a toujours été là. Je ne crois pas avoir raté beaucoup de réunions.
Non, mais ils ne parlent pas de ceux qui sont là.
Oui.
Ce que dit cet auditeur, c'est manifestement, il n'y a pas concorde autour de cette question.
Mais pas du tout. Il faut arrêter de croire que quand quelque chose n'avance pas, c'est qu'on n'est pas d'accord. Prenez les délibérations de la CTM, de beaucoup de mairies, généralement 90%, c'est voté à l'unanimité. Donc il y a moins de discordance que l'on pourrait croire. C'est une question qui est extrêmement complexe. Quand vous tirez une brique dans ce mur-là, le mur s'effondre. Lorsque vous le remettez cette brique, vous la remettez sur le mur d'à côté, le mur s'effondre. Il y a des enjeux fiscaux, il y a des enjeux de protection de la production locale, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux aussi institutionnels. On est quand même dans la liberté du commerce, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Liberté, égalité, fraternité, le principe de la République. Il y a énormément d'enjeux et moi je crois que la seule solution, c'est se parler. Ce qui se fait déjà. Je rappelle que quand j'étais première vice-présidente de la région, j'ai participé aux premières négociations entre producteurs locaux, en particulier tout ce qui est viande, etc., et grande distribution. J'ai dû arrêter quasiment un combat physique entre les deux parties. Tellement les gens ne se parlaient pas. Tellement la production locale n'était pas représentée à la grande distribution. Aujourd'hui, à force de parler, à force de coordination, à force de coopération de manière globale, à force d'être sorti de l'émotion, on est arrivé aujourd'hui à voir, vous allez chez les distributeurs, vous voyez qu'il y a une production locale dans le végétal, dans le maraîcher, dans la production animale qui est présente. Donc, ce n'est qu'en parlant et qu'en allant au fond des sujets qu'on découvre. J'avais une bonne idée il y a 15 jours, il y a 10 jours. Je me disais, ouais, mais si on faisait ça sur le container et tout, j'arrive toute fringante, je vais voir le directeur de la CGM, je lui dis, mais monsieur le directeur, si sur les 4000 boîtes qui transportent les marchandises de première nécessité, l'État compense et puis vous portez la différence peut-être sur le matériel moins nécessaire, les grands écrans plats, enfin bref, tout ce dont on n'a pas besoin spécialement au quotidien. Il me dit, mais non, la difficulté, c'est que dans le conteneur, il y a de tout.
Oui, les conteneurs ne sont pas spécifiques.
Donc, il est très difficile d'avoir un traitement homogène sur une marge, sur des marchandises qui sont totalement plurielles. Mais ça, je l'ai appris.
Merci.
Et je lui ai dit merci beaucoup. Il m'a remis un certain nombre de notes. Je suis en train d'essayer de retravailler à d'autres idées. Mais c'est pas simple. Si c'était simple.
Merci.
Qui est contre de constater que la vie est chère en Martinique? Mais personne.
Merci.
Mais personne n'est contre
merci,
ça.
Merci Catherine Cocotte. Priorité aux questions.
Comment on y arrive ?
Je suis obligé de vous interrompre.
Comment on y arrive ?
Je suis obligé de vous interrompre. Deux dernières questions avant la pause de 10 heures. Muriel et ensuite Claude. Muriel, vous voulez évoquer la question du retour au pays et de la négociation sur les offres d'emploi. On vous écoute, vous êtes à l'antenne.
Oui, bonjour.
Vous appelez de quelle commune ?
De Bellefontaine.
Merci.
De Bellefontaine, oui. Alors, je voulais poser la question à Madame Cocotte. C'est bien beau qu'elle ait mis en place le retour au pays. Je comprends ça, j'entends, c'est vrai. Mais le souci est que un jeune, ou peu importe la personne, d'accord, qui est déjà bien, qui gagne bien déjà sa vie sur la métropole, cette personne-là veut revenir dans son pays. Est-ce que vous pensez que la vie qu'elle gagne dans son premier emploi sur la métropole, est-ce que vous pensez qu'elle aura le même? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce ne sera jamais le même salaire. Et d'autant plus, avec cette vie chère-là, avec cette vie chère, plus tous les tracas que nous rencontrons aux Antilles, sur la Martinique, avec les grèves, les embouteillages,
merci.
Tout ce qui va avec.
Merci voilà. Muriel, alors, restez. Elle va vous répondre. Merci, restez à l'antenne. Restez, pardon, en direct pour entendre la réponse. Catherine Conconne, 9h51.
Je vous réponds volontiers. Vous savez, madame, quand il s'est agi de s'intéresser à ce sujet-là, je l'ai pas fait au doigt mouillé. Je l'ai pas fait sur la base d'a priori de ce qui se disait. J'ai dit aux copains qui travaillaient avec nous, des jeunes qui étaient partis et qui étaient revenus, lançons une enquête. Et on a fait une enquête. Et à partir des 6000 réponses de personnes qui étaient parties, revenues ou parties, pas revenues, eh ben, on a écrit un plan de travail. Et figurez-vous, madame, que dans ceux qui étaient revenus, c'était à peu près 1500 réponses des 6000 de ceux qui étaient revenus, deux tiers de ceux qui étaient revenus, avaient retrouvé leur même niveau de salaire. N'attendons pas de la Martinique que tout soit parfait. Mais bien sûr qu'il y aura peut-être des cailloux dans la chaussure, que celui-là n'aura pas retrouvé son niveau de vie, etc. Mais aujourd'hui, allez voir les offres d'emploi qui sont faites dans les job dating et tout, il y a des montants de rémunération qui sont largement corrects. Je ne dis pas que ce sera 100%. Quel pays peut offrir 100% de satisfaction à sa population ? Je ne le connais pas. Le pays idéal où tout fonctionne, je ne le connais pas. Par contre, j'invite 100% de la population à apprécier son pays et à l'aimer.
Merci Catherine Cocotte. Dernière question avant 10h, celle de Claude. Vous voulez rebondir sur la question du transport et de la santé. Bonjour Claude, vous appelez de quelle commune ?
Oui, bonjour. La semaine, c'est Saint-Joseph et le week-end, c'est Rivière-Salée.
Magnifique, c'est bien. Magnifique.
Martiniquais.
Absolument. Et oui, tout d'abord, bonjour à notre sénatrice. Je voulais très rapidement rebondir sur la question de l'indivision et dire qu'il y a aussi quand même un véritable changement au niveau des mentalités, notamment en ce qui concerne la transmission de son vivant, la transmission de son patrimoine et aussi tout de suite aussi après la mort de la personne concernée. Je crois qu'il est important d'aller vers une évolution aussi, le changement des mentalités. Très rapidement, concernant le transport, je voulais demander à Catherine, est-ce qu'il n'y a pas un véritable souci, notamment concernant un élu, un mandat? Parce que je n'ai rien contre le président de Martinique Transport, mais avec tous ces mandats, pour le président de Martinique Transport, maire, vice-président de la CACEM, responsable de la section écologie à la CTM, président de parti politique, est-ce que ça n'apporte pas un véritable souci pour bien suivre le dossier du transport qui demande quand même une gestion à plein temps, véritablement, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, surtout les personnes qui sont
merci.
Dans la précarité.
Merci,
oui, et puis,
Claude.
Concernant la santé, oui, et très rapidement, Concernant la prise en charge, donc, véritablement, il y a eu un débat véritablement cette semaine. Est-ce qu'il n'y a pas un doute pour les Martiniquais concernant la prise en charge de la santé véritablement en Martinique, où certains sont obligés de partir parce qu'ils ont les moyens véritablement? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'inégalité à ce niveau? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Restez à l'écoute rapidement, pour la réponse. Rapidement, Catherine Concon.
Rapidement, le transport, c'est là aussi un sujet extrêmement complexe. Le transport coûte excessivement cher. Et la recette autour du transport est excessivement faible. Autrement dit, la gouvernance, le président de Martinique Transport doit faire tous les jours des chassés-croisés pour trouver les moyens de financer. Parce qu'on est dans un pays qui a une densité de population particulière avec des gens qui habitent partout. Et tout le monde aurait aimé avoir, légitimement, c'est normal, son petit bus qui l'attend au quartier machin, dans le fond ceci, etc. Ça demande énormément de moyens, mais c'est un secteur qui est sous-financé, parce que là, effectivement, on a certainement la compétence, mais pas le pouvoir. Le moyen de financer le transport public est très adapté à des grands pays comme la France, parce qu'il est tout simplement basé sur le nombre de salariés des entreprises. Lorsque vous avez plus de 90% des salariés des entreprises martiniquaises qui sont sous la barre de la collecte du VT, eh bien, on se retrouve avec un sous-dimensionnement des budgets, mais ça coûte excessivement cher. Alors, après, le président préside, il donne les grandes orientations, mais c'est pas lui qui est dans l'intendance quotidienne. Il y a des salariés pour ça, il y a des collaborateurs qui travaillent et qui mettent en œuvre la politique. C'est pas le président qui va aller conduire le bus, qui va aller faire ci, qui va aller faire ça. Le tout, c'est comment la politique est organisée. Et pour bien connaître David Zobda, je suis sûr qu'il fait le travail très correctement, mais avec les moyens dont il dispose.
Merci.
C'est pas facile, mais n'empêche que
merci.
Oui, je milite pour dire qu'il faut améliorer le transport
merci
public.
Merci Catherine Concon. Nous avons moins d'une minute pour le questionnaire sauce piquante. Ça veut dire que vous pouvez répondre oui, non ou avec joker, mais vous ne pourrez pas développer. Première question, la Martinique doit-elle demeurer française? Oui, non ou joker?
La Martinique doit demeurer aux côtés d'une
oui,
grande puissance.
Oui, non ou joker?
Oui, oui. Oui.
Étiez-vous surprise de la victoire de Béatrice Bellé à Fort-de-France?
Non.
La subvention de 50 000 euros de la CTM au conseil de Kalash, oui, non, joker?
Oui.
Seriez-vous favorable à une consultation des électeurs de Martinique sur l'indépendance de la Martinique?
Pourquoi pas.
Êtes-vous favorable à une diminution, voire une suppression de la TVA en Martinique?
Non.
Avez-vous des échanges autres que protocolaires avec Serge Letchimy?
Oui.
La Martinique Ensemble, votre parti, réfléchit-il aux élections de la CTM en 2028?
Oui.
La nomination de Michel Barnier est-elle une bonne nouvelle pour l'Outre-mer?
Je ne sais pas.
La défaite de Johnny Hajjar à Fort-de-France était-elle prévisible?
Non.
Catherine Concon, envisagez-vous de briguer un jour la mairie de Fort-de-France?
Joker.
Nous allons vers le flash. Merci, à tout à l'heure.
9h-11h, la tribune du dimanche sur RCI. Préparez-vous pour un concert inoubliable.
La partition qui joue dans mon cœur.
Avant son concert sur la scène légendaire de l'Accor Arena en 2025, GC Productions, en accord avec L2NK Productions, présente Fanny G en concert live le 11 novembre 2024 à 18h sur la scène de l'Appaloosa Arena. Avec sa voix envoûtante et son charisme naturel, la reine incontestée du Zouk, Fanny G, donnera son plus grand concert en Martinique. Billets en vente uniquement sur Bizouk. Infoline 0696 174 175. Un événement RCI via ATV et Alwego.
Leclerc.
En ce moment, petit bazar, mais grandes affaires chez Leclerc. Jusqu'au 22 septembre, retrouvez l'indispensable centrale vapeur Calor Express et sa fonction défroissage vertical à seulement 89,90€. Alors, pas mal, non? Offre valable dans la limite des stocks disponibles dans vos Leclerc Galeria, Place d'Armes et Rond-Point.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
En taco, en brouette, en caisse, bagnole ou carriole, en ce moment chez Volkswagen, venez comme vous êtes et repartez en T-Roc. Volkswagen reprend votre ancien véhicule
véhicule, quel que soit son état, jusqu'à 4000 euros. Et vous offre la garantie 5 ans sur votre tout nouveau T-Roc.
C'est le moment de changer pour une Volkswagen. Offre valable jusqu'au 30 septembre.
AutoGM, la garantie des grandes marques.
Voir conditions en concession. Pensez à covoiturer.
Et alors là, le détective, ça lui met la puce à l'oreille. Tout de suite, il décroche le téléphone. Oui, à l'époque, il n'y avait pas encore de portable, c'est un classique. Et il appelle son collègue, mais trop tard. Je te raconte pas ce qui lui tombe dessus. Il en vient de partout. Alors je ne vous spoile pas la fin, mais si vous voulez la connaître, vous pouvez toujours filer chez Butte à Cajou et opter pour le téléviseur 40 pouces UHD 4K Waltham à 249,99€ au lieu de 279,99€. Sur les prix, par contre, il n'y aura pas de suspense. Chez Butte à Cajou, ils seront bas.
Là ou papa ou ben maman, ou qu'à protéger cette imamayou dit danger, ou ben même dit ça qui peut faire yo plairer. Mais, pour HPV, est-ce qu'on peut protéger yo?
HPV, c'est un virus qui cavini d'inom. Yo ka crié yo papillomavirus. Yo ka causé milliers cancers chaque l'année. 80% d'inom et femmes peut traper tout pendant la vie yo. En bonne nouvelle, il n'y a un vaccin si efficace pour protéger cette imamayou, tifi kon ti bon l'homme, depuis yo ni 11 ans.
Pour goûter contre ces cancers à dit demain, c'est jeudi à Fonouagi. Ça ou finitante, c'est un message du ministère.